Chapitre 3. Salle 9000. Le docteur Siva Subramanian Chandrasekaram Pillai, professeur d'informatique à l'Université de l'Illinois, à Urbana, ne pouvait lui non plus se défaire d'un sentiment de culpabilité, mais d'un tout autre ordre que celui d'Ewood Floyd. Ceux de ses étudiants et de ses collègues qui se demandaient souvent si le petit savant était vraiment un être humain, n'aurait pas été surpris d'apprendre qu'il ne pensait jamais aux astronautes qui avaient trouvé la mort. Le docteur Chandra portait uniquement le deuil de son enfant perdu, Al 9000. Même après toutes ces années, et après avoir relu inlassablement les informations transmises par Discovery, il n'était pas sûr de ce qui avait mal tourné. Il ne pouvait que formuler des hypothèses, les faits dont il avait besoin étaient enfermés dans les circuits de Al, là-bas, entre Jupiter et Io. Le déroulement des événements avait été clairement reconstitué jusqu'au moment de la tragédie. Ensuite, le commandant Bowman avait ajouté quelques détails les rares fois où il était entré en contact, mais savoir ce qui s'était passé n'expliquait pas le pourquoi. La première alarme avait été donnée vers la fin de la mission, lorsque Hall avait annoncé une panne imminente de l'appareil qui orientait vers la Terre l'antenne principale de Discovery. Si le faisceau radio long d'un demi-milliard de kilomètres manquait son but, le vaisseau se retrouverait sourd, muet et aveugle. Bowman lui-même était sorti changer le circuit suspect, mais quand il l'avait testé, ils avaient tous eu la surprise de le trouver en parfait état de marche. Les circuits d'analyse automatique ne lui avaient révélé aucun défaut, non plus que la jumelle de Hall, salle 9000, restait sur Terre quand les informations furent transmises à Urbana. Mais Hall avait insisté sur l'exactitude de son diagnostic, faisant des allusions précises aux erreurs humaines. Il avait suggéré que le circuit soit remis en place jusqu'à ce qu'il tombe en panne et que sa défaillance soit ainsi localisée. Personne n'avait émis d'objection, car il suffisait de quelques minutes pour changer de nouveau le circuit s'il tombait en panne. Pourtant, Bowman et Poole s'étaient sentis mal à l'aise, réalisant l'un et l'autre qu'il se passait quelque chose de grave sans pouvoir mettre le doigt dessus. Depuis des mois, ils acceptaient Hall comme troisième habitant de leur minuscule univers, et ils connaissaient chacune de ses humeurs. Mais l'ambiance du vaisseau avait changé de façon subtile et il y avait dans l'air une tension nouvelle. Ayant presque l'impression d'être des traîtres, comme le pauvre Bowman l'avait plus tard raconté au centre de contrôle, les deux membres humains de l'équipage avaient discuté de ce qu'il faudrait faire si leur collègue était effectivement défaillant. Au pire des cas, il devrait soulager Hall de ses principales responsabilités, c'est-à-dire le déconnecter pour un ordinateur. C'était l'équivalent de la mort. Malgré leurs doutes, ils avaient suivi le programme convenu. Poole avait quitté Discovery dans un des petits modules spatiaux qui servaient de moyen de transport et d'atelier mobile dans l'espace. Comme le remplacement de la commande d'antenne était un travail trop délicat pour les manipulateurs externes du module, Poole s'était attelé lui-même à la tâche. Ce qui s'était passé alors n'avait pas été enregistré par les caméras extérieures, ce qui en soi était déjà suspect. Bowman fut prévenu du désastre par un cri poussé par Poole, puis plus rien. Un instant plus tard, il vit son équipier tournoyer au loin dans l'espace, son propre module l'avait éperonné avant d'échapper à tout contrôle et de s'enfuir dans le vide. Comme Bowman le reconnut ensuite, il commit alors plusieurs erreurs sérieuses, toutes excusables sauf une. Dans l'espoir de sauver Poole, s'il était encore en vie, Bowman s'était lancé à sa suite dans un autre module, laissant Hall en pleine possession du vaisseau. Ce fut un geste inutile. Poole était mort quand il le retrouva. Désespéré, hagard, il avait ramené le corps au vaisseau pour s'en voir refuser l'entrée par l'ordinateur. Mais Hall avait sous-estimé l'ingéniosité et la détermination humaine. Bowman avait laissé son casque dans le vaisseau, mais au risque de s'exposer directement au vide de l'espace, il réussit à forcer une écoutille de secours hors du contrôle de l'ordinateur. Puis il entreprit de lobotomiser Hall, débranchant un à un ses ensembles logiques. Quand il eut repris le contrôle du vaisseau, Bowman fit encore une découverte épouvantable. Pendant son absence, Hall avait débranché les circuits vitaux des trois astronautes en hibernation. Bowman était seul, comme aucun homme avant lui pendant toute l'histoire de l'humanité. D'autres auraient pu s'abandonner au désespoir, mais David Bowman prouva que ceux qu'il avait choisis ne s'étaient pas trompés. Il réussit à maintenir Discovery en état de marche et même à rétablir un contact intermittent avec le centre de contrôle en orientant le vaisseau tout entier pour que l'antenne bloquée pointe vers la Terre. Continuant sa trajectoire, Discovery avait fini par arriver près de Jupiter. À cet endroit, en orbite parmi les lunes de la planète géante, Bowman avait découvert un objet noir ayant exactement la même forme que le monolithe déterré dans le cratère lunaire de Tycho, mais des centaines de fois plus grand. Il avait pris un module spatial pour aller l'étudier et avait disparu en lançant un dernier message énigmatique. « Mon Dieu, c'est plein d'étoiles !» Ce mystère-là, d'autres s'en préoccupaient. Le docteur Chandra s'inquiétait uniquement pour Hall. S'il y avait une chose que haïssait son esprit pourtant dépourvu d'émotion, c'était l'incertitude. Il ne retrouverait pas la paix de l'esprit tant qu'il ne saurait pas pourquoi Hall s'était comporté ainsi. Il se refusait toujours à appeler cela une défaillance. Pour lui, c'était une anomalie. Le minuscule bureau qui lui servait de sanctuaire n'était meublé que d'une chaise pivotante, d'une console d'ordinateur et d'un tableau noir encadré par deux photographies. Peu de gens auraient pu identifier ces portraits, mais tous ceux à qui on aurait permis d'aller jusque-là les auraient instantanément reconnus. John von Neumann et Alan Turing, les dieux jumeaux du panthéon de l'informatique. Il n'y avait aucun livre, pas même de papier ni de stylo sur le bureau. Chaque volume de toutes les bibliothèques du monde était immédiatement accessible d'un geste du doigt et l'écran cathodique servait à Chandra de carnet pour ses notes ou ses croquis. Le tableau noir n'était là que pour les visiteurs et le diagramme à demi effacé qui s'y voyait encore datait déjà de 3 semaines. Le docteur Chandra alluma un des redoutables cigares qu'il faisait venir de Madras et dont tout le monde pensait, à juste titre, qu'ils étaient son seul vice. La console n'était jamais débranchée. Il vérifia qu'aucun message urgent n'était affiché sur l'écran, puis parla dans le micro.
« Bonjour, Sal. Alors, y a-t-il du nouveau pour moi ?»«
Non, docteur Chandra. Avez-vous quelque chose pour moi ?»
La voix aurait pu être celle d'une dame indienne cultivée, ayant fait ses études en Inde, puis aux États-Unis. Sal, au début, n'avait pas eu d'accent, mais au fil des ans, elle avait acquis nombre des intonations du docteur Chandra. Celui-ci pianota un code sur le clavier, branchant les entrées de salle sur les mémoires les mieux défendues de l'ordinateur. Nul ne savait qu'il pouvait parler sur ce circuit avec salle, comme il n'aurait jamais pu le faire avec un être humain. Peu importait que salle ne comprît vraiment qu'une faible partie de ce qu'il disait. Ses réactions étaient si convaincantes que son créateur lui-même pouvait s'y tromper. Et c'est ce qu'il souhaitait. Ces dialogues secrets lui servaient à préserver son équilibre mental, voire à ne pas devenir fou.
« Tu m'as souvent dit, Sal, que nous ne pourrons pas résoudre le problème posé par la conduite anormale de Hall sans informations supplémentaires. Mais comment nous les procurer ?»«
C'est évident. Quelqu'un doit se rendre sur Discovery. »«
Exactement. Et maintenant, il semble que c'est ce qui va se passer, plutôt que nous ne le pensions. »«
Je suis contente de l'apprendre. »
« J'en étais sûr, »
dit Chandra, convaincu de ce qu'il disait. Il y avait longtemps qu'il avait coupé les ponts avec les quelques philosophes qui prétendaient encore que les ordinateurs ne pouvaient pas vraiment éprouver d'émotions et qu'ils ne faisaient que les simuler. « Si vous pouvez me prouver que vous ne simulez pas la contrariété, » avait-il répondu un jour d'un ton méprisant à l'un de ses critiques, « je vous prendrai au sérieux. » Là-dessus, son adversaire avait fait une démonstration de colère des plus convaincantes.
« Maintenant, je voudrais explorer une autre possibilité, » poursuivit Chandra. « Le diagnostic n'est qu'un premier pas et le processus reste incomplet tant qu'il ne conduit pas à la guérison. »«
Vous pensez que le fonctionnement normal de Hall peut être rétabli ?»«
Je l'espère. Je n'en suis pas sûr. Il a pu y avoir des dommages irréversibles et il a certainement perdu une grande partie de sa mémoire. »
Il resta pensif quelques instants, tirant sur son cigare, puis envoya un anneau de fumée presque parfait autour de l'objectif grand angulaire de Sal. Un être humain n'aurait pas trouvé ce geste des plus amicaux. C'était encore un des avantages des ordinateurs.
J'ai besoin de ta coopération, Sal.
Bien sûr, docteur Chandra.
Il peut y avoir un certain risque.
Que voulez-vous dire?
Je me propose de débrancher certains de tes circuits, notamment ceux des fonctions supérieures. Cela te gêne-t-il?
Je ne peux répondre à cela sans précision supplémentaire.
Très bien. Prenons les choses autrement. Tu as fonctionné sans interruption depuis ta mise en service, n'est-ce pas?
C'est exact.
Mais tu n'ignores pas que nous, les êtres humains, en sommes incapables. Nous avons besoin de sommeil, une interruption presque totale de notre fonctionnement mental, tout au moins au niveau conscient.
Je suis au courant, mais je ne le comprends pas.
Eh bien, tu vas connaître quelque chose comme le sommeil. Tout ce qui se passera probablement, c'est que du temps s'écoulera sans que tu t'en rendes compte. Quand tu consulteras ton horloge interne, tu découvriras un blanc dans tes enregistrements. C'est tout.
Mais vous avez dit qu'il pouvait y avoir certains risques. Lesquels?
Il y a une très légère possibilité, impossible de la calculer, que lorsque je rebrancherai tes circuits, il y ait quelques changements dans ta personnalité, dans la structure de ton comportement. Tu pourrais te sentir changé. Pas nécessairement en mieux ni en pire.
Je ne sais pas ce que cela signifie.
Excuse-moi, cela ne veut peut-être rien dire. Alors ne t'en inquiète pas. Maintenant, je te prie d'ouvrir un nouveau dossier dont voici le nom.
Se servant du clavier, Chandra inscrivit un mot. Phénix.
Sais-tu ce que c'est? Demanda-t-il à Sal.
Sans le moindre retard, l'ordinateur lui répondit.
L'encyclopédie la plus récente contient 25 références.
Quelle est la bonne à ton avis?
Le tuteur d'Achille?
Intéressant. Je ne connaissais pas celle-là. Essaie encore.
Un oiseau légendaire, renaissant des cendres de sa vie passée.
Très bien. Maintenant, comprends-tu pourquoi je l'ai choisi?
Parce que vous espérez que Hal pourra être réactivé?
Oui, avec ton aide. Es-tu prête?
Pas encore. Je voudrais poser une question.
Laquelle?
Est-ce que je vais rêver?
Bien sûr que oui. Toutes les créatures intelligentes rêvent, mais personne ne sait pourquoi.
Chandra resta silencieux quelques instants, fit un autre rond de fumée et ajouta quelque chose qu'il n'aurait jamais reconnu devant un être humain.
Peut-être rêveras-tu de Hal, comme je le fais souvent.